pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. Pourquoi est-ce que des adultes pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune? 3, 2, 1, 0. Un texte de Camille Lopez, paru le 26 octobre 2024 dans Les As de l'info. Il y a quelques jours, un chroniqueur sportif québécois a temporairement perdu son emploi. Il a dit à la radio qu'il ne croit pas que des astronautes ont marché sur la Lune. C'est pourtant bel et bien arrivé, comme tu as dû le lire dans de nombreux livres sur l'espace. C'est même prouvé. Mais tu sais quoi? Plusieurs adultes partagent cette fausse croyance. Aux As, on s'est dit qu'il était temps de revoir les faits. Décollage. La grande aventure de Neil, Buzz et 10 autres astronautes. Le 20 juillet 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers humains à marcher sur la Lune. Ils participent à la mission Apollo 11. Leur voyage spatial a été diffusé en direct à la télé. 650 millions de personnes ont regardé ce moment incroyable dans l'histoire de l'humanité. Dans les années qui ont suivi, 10 autres astronautes ont marché sur la Lune. La dernière fois, c'était en 1972. Pas de voyage lunaire depuis plus de 50 ans. Eh oui, ça fait 52 ans qu'un astronaute n'a pas marché sur la Lune. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup d'argent et parce qu'on a déjà prouvé qu'on pouvait le faire. Marcher sur la Lune, c'était aussi la ligne d'arrivée d'une grande course entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'ancien nom qu'on donnait à la Russie et certains de ses pays voisins. Beaucoup d'argent a été dépensé pour essayer d'être le premier pays à envoyer un homme sur cet astre. Les États-Unis ont gagné avec Neil et Buzz en 1969. La longue histoire d'une fausse croyance. En 1976, Bill Kaysing, un ancien employé d'un constructeur de fusées, a publié un livre intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune ». Il a écrit que l'alunissage, un atterrissage mais sur la Lune, était en fait une mise en scène filmée dans un studio de cinéma. Il n'avait aucune preuve solide pour appuyer ses arguments, mais depuis, beaucoup de gens y croient. Encore aujourd'hui, des personnes publient des vidéos sur YouTube pour présenter leurs théories. Des vidéos de ce genre ont des millions de clics. Pourquoi croire à une fausseté? Ce qu'il faut savoir, c'est que la NASA, c'est une branche du gouvernement américain et plusieurs personnes ne font pas confiance au gouvernement. Pour certaines d'entre elles, c'est une assez bonne raison de ne pas croire en ses exploits. À chaque fois, ceux qui ne croient pas à l'aventure lunaire présentent les mêmes preuves. Par exemple, ils disent que le drapeau américain qui a été planté sur le sol lunaire ne devrait pas flotter puisqu'il n'y a pas de vent sur la Lune. En fait, le drapeau ne flotte pas. Il est attaché à un support qui lui donne cette apparence de légèreté. Il trouve aussi ça très louche que des astronautes n'y soient pas retournés en 52 ans. Mais, comme on te l'a expliqué plus haut, les raisons sont logiques. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi les photos prises par les astronautes ne montrent pas les étoiles. Mais, as-tu déjà essayé de prendre une photo d'un de tes amis le soir dehors? Pour les appareils photo, c'est très difficile de capter et ton ami et les étoiles dans le ciel. C'est une question de luminosité. C'est ce qui est arrivé aux astronautes. Oui, on a marché sur la Lune. on a des preuves que des astronautes sont bel et bien allés sur la Lune. En voici quelques-unes. Les astronautes ont ramassé plein de roches lunaires, plus de 382 kg. Elles ont été analysées par des scientifiques qui ont confirmé qu'elles venaient bien de la Lune. En 2009, la NASA a lancé la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter qui a comme mission d'observer la Lune. Sur les images prises depuis, on voit très bien les traces et les débris laissés par les astronautes et leur équipement. 400 000 personnes ont travaillé sur la mission Apollo 11. Une seule d'entre elles, Bill Kaysing, a dit que l'alunissage était une mise en scène. C'est presque impossible qu'autant de gens gardent un secret aussi gros. Donc, un chroniqueur a été puni. Il ne peut plus parler à la radio pour le moment parce qu'il a publiquement affirmé croire ses fausses théories. Trouves-tu que son patron a bien fait? Ou que c'est une conséquence trop sévère? Qu'aurais-tu fait, toi? Comment j'ai vaincu ma grosse phobie des araignées? Un texte de Camille Lopez, paru le 29 octobre 2024 dans Les As de l'Info. Cette année, j'ai réussi ce qui me semblait impossible, surmonter ma peur des araignées. Je n'ai pas utilisé de sortilège ou de potion magique pour y arriver. Tout s'est passé dans mon cerveau. J'ai décidé de t'expliquer comment j'ai fait, en plus de parler de ce sujet fascinant à la psychologue Nathalie Parent, qui a aidé plein de jeunes à surmonter leur peur. Bonjour Nathalie. C'est quoi une phobie? Est-ce que c'est la même chose qu'une peur? Une phobie, c'est une peur très intense que tu as depuis longtemps. Elle t'empêche de faire des choses parce que tu ne veux pas être en contact avec ce qui t'effraie. Est-ce que c'est normal d'avoir des peurs? Oui. Si on avait peur de rien, on pourrait mettre notre vie en danger. La peur nous fait apprivoiser des situations nouvelles. C'est comme quand un animal s'approche de nous. Il le fait très doucement, petit à petit, parce qu'il a peur et qu'il veut se protéger. Mais si ta peur prend beaucoup de place, t'empêche de faire des choses, parle-en à un adulte de confiance. Comment est-ce qu'elles se forment, nos peurs? Certaines se forment à partir de ce qu'on a vécu. Par exemple, si la première fois que j'ai joué avec un ballon, ça s'est mal passé, je risque d'avoir peur de ce jouet. En plus, les images qu'on voit dans les films et les émissions peuvent nous marquer. Ça peut aussi être lié à nos parents. Par exemple, la peur des orages. Si je vois maman paniquer et papa être inquiet, je comprends qu'il peut y avoir un danger pendant une tempête. Est-ce que c'est possible de vaincre nos peurs et nos phobies? Comment? Oui, il faut affronter sa peur à petits pas. On commence par regarder des photos de ce qui nous effraie, puis des vidéos. Et éventuellement, on peut tenter un contact physique. Il y a aussi des techniques de méditation. On va t'inviter à te détendre et à imaginer des scénarios où tu serais exposé à l'objet de ta peur. Et l'Halloween peut aider. On peut devenir, en se costumant, le personnage qui nous fait peur. L'expérience de Camille. Voici comment j'ai vaincu ma phobie des araignées. 1. J'ai fait des recherches. Il n'y a pas d'araignées dangereuses au Québec. 2. J'ai regardé plein de vidéos d'araignées vraiment mignonnes. Ce sont des salticidées, araignées sauteuses. Tu peux voir à quoi ça ressemble sur une photo. 3. J'ai décidé que Si je vois une araignée à l'intérieur, je dois la sortir dehors. J'ai commencé par utiliser un pot, puis une feuille, puis mes mains. Le moment où j'ai réalisé que je n'avais plus peur, quand une araignée a élu domicile chez mon père, on l'a appelée Bérangère. Elle reste dans son coin et se mêle de ses affaires. Et tu sais quoi? Quand je ne la vois pas, je m'inquiète pour elle. Et toi, comment fais-tu pour affronter ce qui te fait peur? Pour ou contre les costumes violents à l'Halloween? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 28 octobre 2024 dans les As de l'Info. Les citrouilles étaient décorées, les feuilles tombées. Jeudi, c'était l'Halloween. Quelle était ton costume? Peut-être as-tu abandonné ton projet de te déguiser en poupée tueuse parce que ton école interdit les costumes avec du faux sang ou des armes. Tu en penses quoi, toi, de ce genre de costume? Regardons ensemble les arguments pour et les arguments contre les costumes violents à l'Halloween. Les arguments pour. L'Halloween, c'est la fête de la peur. Les origines de l'Halloween sont remplies d'histoires de morts, de revenants. C'est la fête de la peur et de l'horreur. Les clowns maniaques, les tueurs de films d'horreur, les zombies à moitié pourris. Ce sont tous des déguisements typiques de l'Halloween. Le faux sang, les épées et les pistolets en plastique font partie de la fête. Jouer avec la peur sans danger. La soirée de l'Halloween peut être une occasion de vivre des émotions fortes. Ça permet d'avoir peur et de lâcher son fou, en sachant que ce n'est pas vrai. Parce que croiser Chucky la poupée tueuse ou le fantôme Ghostface des films frissons, oui, ça peut être un peu effrayant. Mais c'est comme quand on regarde un film qui fait peur. Ça donne une dose d'adrénaline sans se mettre en danger. C'est l'exception à la règle. L'Halloween, c'est un jour dans l'année où on peut se permettre de célébrer la peur et l'horreur. On ne se prend pas pour le personnage de Jason du film Vendredi 13 le reste de l'année, phew! Autant le vivre à fond. Les arguments contre. On ne s'amuse pas avec la violence. Il y a assez de vraies guerres et de vrais criminels comme ça. Pas besoin d'en rajouter et surtout de s'en amuser. C'est comme si on rendait cette laideur normale et qu'on se moquait des gens qui ont vécu des drames. Ça ne se fait pas. Ça fait peur. Il n'y a rien de drôle à se faire approcher par une reine décapitée ou de devoir repousser un pseudo-tueur en série qui se promène avec une hache en plastique. Le sang, les fausses blessures, les armes, c'est de mauvais goût. Il y a des déguisements qui sont carrément dégoûtants et qui font peur aux petits-enfants. Non, merci. Il y a tant d'autres costumes. C'est tout à fait possible de célébrer la fête de la peur et de la nuit sans déguisement violent. Sorcières, loups-garous, fantômes, squelettes, ce sont tous des personnages traditionnels de l'Halloween. Et si la peur n'est pas notre truc, il y a mille et une autres idées possibles. Licorne, bonhomme de neige, Harry Potter. Ce n'est vraiment pas nécessaire d'opter pour un costume violent. Et toi, es-tu pour ou contre les costumes violents à l'Halloween? Plus de requins blancs au Québec. Une bonne nouvelle? Un texte de Sophie Payeur, paru le 24 octobre 2024 dans les As de l'Info. Depuis quelques années, le grand requin blanc visite plus souvent le Québec. Il est attiré dans le golfe du Saint-Laurent par les eaux qui se réchauffent ainsi que par les phoques gris tellement abondants qu'ils menacent l'écosystème. Et si le requin blanc venait rétablir un certain équilibre? Les scientifiques se posent la question. Rassure-toi, ce requin légendaire ne viendra pas te mordre les orteils. Il nage dans des zones trop froides pour la baignade, de toute façon. Il ne s'intéresse pas aux humains. C'est pour se nourrir de phoques gris que le requin blanc visite les eaux québécoises de juillet à octobre. Le requin blanc, un grand fragile. Aussi redoutable qu'il puisse être, le grand requin blanc est une espèce menacée d'extinction à l'échelle de la planète. Ce qu'il menace, les humains. Avec leur immense filet, les pêcheurs le capturent par accident, entraînant leur mort. Entre 1874 et 2009, il y a eu à peine 100 observations de requins blancs dans les eaux du golfe Saint-Laurent. Mais depuis 2009, on en a compté au moins 40. Le phoque gris, petit mais nombreux. Les phoques gris, eux, se comptent par dizaines de milliers dans le Saint-Laurent. Avec le réchauffement du climat, ils sont obligés de délaisser les banquises, ces étendues de glace sur lesquelles ils donnent naissance et nourrissent leurs petits. Désormais, les banquises ne se forment plus ou trop peu pour être sécuritaires. Pour élever leur famille, les phoques gris se tournent maintenant vers les îles. L'île Brion, près des îles de la Madeleine, est devenue leur plus grand site de naissance. Et ils sont gourmands. Ils mangent des tonnes de poissons. Ils se régalent entre autres de la morue, dont la population est tristement en baisse. Cela inquiète les chercheurs qui pensent que le phoque gris nuit à cette espèce de poisson. Le requin blanc, le bon ou le mauvais de l'histoire? Et le grand requin blanc dans tout ça? En mangeant des phoques gris, les requins blancs pourraient faire baisser leur population, qui est problématique pour les morues. De cette façon, ces requins pourraient aider à rétablir un certain équilibre entre les animaux du golfe du Saint-Laurent. À moins que la fonte des banquises contribue de toute manière à réduire le nombre de phoques. La recherche à la rescousse. Complexe, n'est-ce pas? Les scientifiques analysent la situation. L'an dernier, une équipe de Pêche et Océan Canada a équipé 9 grands requins blancs avec des émetteurs. Doucement déposés sur la nageoire dorsale, sans dérangement pour le requin, l'émetteur permet de le détecter dans le Saint-Laurent et de connaître son trajet. Ils ont fait la même chose avec 14 phoques gris pour comprendre les interactions entre les deux espèces. Une histoire à suivre. Et toi, penses-tu que la présence du grand requin blanc au Québec, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Peut-il y avoir de bonnes raisons de désobéir? Un texte de Gilles Labelle, paru le 23 octobre 2024 dans les As de l'Info. À Montréal, mardi, des militants écologistes ont escaladé le pont Jacques-Cartier au petit matin, provoquant sa fermeture au trafic durant plusieurs heures. À Rouyn-Noranda, il y a une semaine, des maires se sont couchés sur une voie ferrée pour empêcher un train de se rendre à une usine polluante. Dans les deux cas, ces actions n'ont fait aucun blessé. Ces deux événements récents sont des exemples de désobéissance civile, c'est-à-dire que des personnes ont décidé de ne pas respecter une loi ou une règle de façon non violente pour lancer un message et faire bouger les choses. Par leur coup d'éclat, ces personnes ont voulu exiger plus d'action du gouvernement pour protéger l'environnement. Pour eux, commettre des actions illégales est acceptable car la cause qu'ils défendent est très importante. À leurs yeux, désobéir est justifié par l'urgence d'agir. Comme en parlait ma collègue Marie dans un texte paru récemment, les maires au front de Rouyn-Noranda se défendent en disant que les enfants méritent une planète en meilleure santé. Ce qui n'est pas facile quand on réfléchit à ces situations, c'est que ça oppose deux valeurs importantes. D'un côté, respecter la loi permet à notre société de fonctionner et de ne pas basculer dans le chaos et le chacun pour soi. Les lois protègent nos droits et garantissent l'égalité entre les citoyens. Désobéir à la loi peut nous valoir des ennuis à la justice. En plus, cela peut causer des désagréments et des dangers aux autres. Par exemple, si je suis en voiture et que je ne m'arrête pas à la lumière rouge, je risque de provoquer un accident. De l'autre côté, il y a des valeurs qui poussent certaines personnes à enfreindre la loi. Elles disent ne pas être heureuses de désobéir, mais elles le font, car elles jugent que leur cause est plus importante que les impacts négatifs de leur action. Par exemple, elles croient que ne pas agir devant la crise climatique est plus grave qu'empêcher des milliers de personnes de se rendre au travail parce que le pont est bloqué. Qu'en penses-tu, toi? Trouves-tu qu'il est plus important de toujours respecter la loi? Ou trouves-tu qu'il peut y avoir, parfois, de bonnes raisons pour désobéir à la loi? J'aimerais beaucoup connaître ton opinion. Essaie de formuler, avec tes mots, des raisons pour justifier ta position. Certaines pourraient être utilisées dans le texte que je publierai dans quelques jours. Grâce à vous, je pourrai alors à mon tour donner mon avis sur cette grande question. Comme tu le sais, aux As de l'Info, nous sommes convaincus que vous êtes des jeunes curieux et intelligents. Et que l'intelligence, c'est comme un bon repas. C'est encore meilleur quand ça se partage. Il est une fois les naufragés que presque personne ne voulait sauver. Un texte de Frédéric Lavoie paru le 25 octobre 2024 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, 17 jeunes hommes partis en bateau en quête d'un avenir meilleur. Leur plan était simple: naviguer jusqu'à atteindre l'autre rive de la mer où ils pourraient refaire leur vie dans un pays plus riche et plus libre que le leur. Ce périple ne devait pas prendre plus de 24 heures. Des milliers d'autres avant eux avaient réussi ce même voyage, mais la traversée comportait aussi des risques. Souvent, les bateaux étaient interceptés par les gardes-côtes, les policiers de la mer, qui les renvoyaient dans leur pays, car selon la loi, ce type de traversée était illégal. Un plus grand danger encore était celui d'un naufrage. Beaucoup de gens disparaissaient ainsi en mer quand leur bateau chavirait. Mais le voyage s'annonçait facile pour ces 17 jeunes hommes. La mer était calme ce jour-là. Ni grosses vagues, ni tempête à l'horizon. Tout allait bien jusqu'à ce que soudain, au milieu de la mer, le moteur de leur bateau tombe en panne. Impossible de le redémarrer. Et il n'y avait pas de radio à bord pour appeler les secours. Heureusement, beaucoup de bateaux traversaient cette mer. Des bateaux de pêche, de plaisance et de très grands cargos transportant de la marchandise. Chaque fois que l'un de ces navires passait près d'eux, les jeunes hommes agitaient les bras et des vestes de sauvetage pour attirer son attention, mais bizarrement, aucun bateau ne s'arrêtait. Était-ce parce que les capitaines ne les voyaient pas ou parce qu'ils ne voulaient pas les voir? Au bout de quelques heures, les petites réserves de nourriture et d'eau à bord se sont épuisées. Rapidement, l'un des jeunes hommes a commencé à se sentir très mal. Il avait besoin de nourriture et de médicaments. Malheureusement, il est mort. 2 jours, 3 jours, 4 jours ont passé. Le matin du 5e jour, les jeunes hommes ont aperçu un autre navire, un petit voilier. Sans grand espoir, ils se sont mis une fois de plus à faire de grands gestes dans sa direction. Miracle! Cette fois, le voilier a changé sa trajectoire pour se diriger vers eux. À bord se trouvaient 3 hommes, des navigateurs de compétition. Ils traversaient eux aussi la mer, mais pour une raison bien différente. Ils venaient de terminer une course de voilier et s'en allaient participer à une autre. Arrivés près de l'embarcation en panne, ils ont lancé des bouteilles d'eau et des paquets de nourriture pour les 16 survivants assoiffés et affamés. Et, puisqu'ils ne pouvaient pas faire monter autant de monde sur leur petit voilier, ils ont appelé avec leur radio un vrai bateau de secours. 2 heures plus tard, les 16 survivants ont pu être transportés sur la terre ferme. Mais une question demeurait. Pourquoi personne d'autre ne s'était arrêté pour aider ces humains en détresse? Pourquoi seuls les 3 navigateurs sur leur petit voilier étaient venus à leur secours? Impossible de le savoir avec une certitude absolue. Ce que nous savons toutefois, c'est que souvent, les gros navires transportant de la marchandise évitent de s'arrêter car cela provoquerait un retard dans leur livraison et leur coûterait très cher. Cette histoire est vraie. Le 7 octobre dernier, le skipper, capitaine de voilier, professionnel français Thibaut Vauchel-Camus et ses 2 assistants ont porté assistance à une embarcation à la dérive en mer Méditerranée. À bord se trouvaient 16 Algériens qui cherchaient à rejoindre la côte de l'Espagne, même s'il est obligatoire de secourir des gens en détresse. Les grandes compagnies de transport demandent aux marins de ne pas aider les migrants pour éviter les retards et les problèmes. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.